Chers amis poditeurs qui voulaient connaître le futur, bonjour. Google devrait investir environ 150 millions de dollars pour acquérir 10% de l'insurtech indienne Policy Bazaar. Il pourrait le faire en rachetant une partie de la participation du plus gros investisseur de Policy, SoftBank, et son célèbre patron, un peu dingo, Masa. Il y a un chouette épisode de ce podcast disponible pour ceux qui le souhaitent sur le sujet. Si SoftBank possède 15% du capital, il est en très bonne compagnie, puisque parmi les autres gros investisseurs, on compte le fonds d'État souverain de Singapour pour 15% et Tencent pour 10%. Et tant que l'on en est à parler gros sous, évoquons le projet d'introduction en bourse en 2021. La société souhaiterait récupérer 500 millions de dollars, ce qui donnerait une très belle valorisation de 3,5 milliards de dollars, soit la valorisation de la néobanque N26. Il faut dire que l'Inde, en termes de potentiel pur, peut faire rêver. On parle d'1,3 milliard d'habitants, dont 50% ont moins de 25 ans. Je vous encourage d'ailleurs à écouter l'épisode de la semaine dernière sur la façon dont l'Inde et les autres pays asiatiques utilisent la technologie pour garantir la nourriture face au tsunami démographique. Et pour l'assurance, c'est encore mieux, puisqu'on estime le marché indien à 280 milliards en 2020, avec une croissance de 15% par an pour les 5 prochaines années. Du coup, cette semaine, nous allons nous intéresser à de nombreuses questions. Avons-nous une bonne vision macro de ce qu'est réellement l'Inde? Comment fonctionne l'assurance et le système de santé? Qui est Policy Bazaar, cette licorne? Quels sont ses process qui font qu'elle cartonne? Et comment tente-t-elle de reproduire le modèle de Ping An? Par contre, je vous le dis gravement, vous n'aurez pas la réponse qui vous taraude vraiment. Pourquoi le reste du monde ne veut-il pas copier notre DMP? Bienvenue dans Asie et Innovation. Alors, on n'y coupera pas, enfin surtout vous, l'Inde en version express. Passons sur la démographie qu'on a déjà évoquée. Concernant la géographie, eh bien on est à 3,3 millions de kilomètres carrés, soit une demi-Australie. Et on peut dire que du coup, on a une multiplicité de contextes locaux. Certes, l'Inde, c'est une république parlementaire fédérale depuis 1950. On la présente d'ailleurs souvent comme la plus grande démocratie du monde. Mais on appréhende mieux la complexité du marché lorsque l'on sait que ce sont en réalité 28 États, avec leur propre gouvernement et institutions, et 8 territoires, qui eux dépendent du gouvernement central. Et la donnée qui tue le game. Le recensement de 2011 a comptabilisé pas moins de 270 langues maternelles dans le pays, dont 122 langues dites importantes. La constitution indienne reconnaît, elle, 22 langues officielles. La plus importante, le hindi, est la langue maternelle de 422 millions d'Indiens, soit seulement 41% de la population. L'anglais, lui, est parlé, en première ou en seconde langue, par uniquement 12%. Terminons cette présentation par l'économie. En matière de PIB, l'économie indienne est la 7e au monde en 2018, voire même la 6e selon certains classements. En gros, France et Inde se tirent gentiment la bourre, sachant que, je vais vous faire de la peine, l'issue est inéluctable. Plus étonnant, l'Inde est la 3e économie mondiale sur la base du PIB à parité de pouvoir d'achat. La France, elle, se classe 10e suivant ce critère. Aujourd'hui, l'e-commerce en Inde représente 35 milliards d'euros et il croît à un taux de 30% par an. Le pays regroupe plus de 600 millions d'internautes, dont plus de 100 millions achètent en ligne, sachant que l'Inde est également le 2e marché le plus important au monde pour les smartphones. La vente en ligne permet aux consommateurs qui n'habitent pas dans les grandes villes, 2/3 de la population indienne vit encore en zone rurale, d'avoir accès à tous les produits. En effet, le canal de l'e-commerce couvre 25 000 codes postaux, tandis que la distribution traditionnelle, elle, n'en couvre que 5 000. Enfin, la donnée clé, la classe moyenne est estimée à 300 millions de personnes et elle croît elle aussi très rapidement. Voilà, on a un peu tué vos a priori, nos a priori Slumdog Millionnaire, excellentissime film si vous ne l'avez pas vu, et on peut passer aux choses encore plus sérieuses, on va parler de santé, d'assurance et de tech. amis non-assureurs que j'aime, je te préviens, la partie qui va suivre sera un peu indigeste, mais elle répond à un besoin désormais bien souvent abandonné par les journalistes OK Boomer, la contextualisation. Le secteur de l'assurance compte 57 compagnies, publiques et privées, ainsi qu'un réassureur national, à savoir la General Insurance Corporation of India. Parmi les autres acteurs du marché indien de l'assurance, on trouve des agents, des courtiers, des experts, etc. Actuellement, on trouve plus de 110 insurtechs et le segment de la télématique et de l'IoT est très investi. Le gouvernement indien est assez proactif dans la croissance de ce marché avec une volonté affichée de favoriser la pénétration de l'assurance dans le pays. Parmi les initiatives gouvernementales, citons le fait que depuis 2020, les intermédiaires d'assurance ont droit à 100% d'investissements directs étrangers. À noter, les États locaux sont également actifs, comme par exemple l'Andhra Pradesh, qui a mis en place un régime d'assurance récolte gratuit pour les agriculteurs de l'État. Pour finir cette large présentation du contexte indien, à ce stade, j'ai dû perdre la moitié de l'audience, un petit focus sur la santé en Inde. Je dis petit parce que je vous en ferai un détaillé dans un prochain épisode, si ça vous intéresse. Les soins de santé sont un des plus grands secteurs économiques de l'Inde, tant en termes de revenus qu'en termes d'emploi. La définition indienne des soins de santé est large, puisqu'elle comprend les soins de santé, les hôpitaux, les dispositifs médicaux, les essais cliniques, l'externalisation, la télémédecine, le tourisme médical, l'assurance maladie et les équipements médicaux privés. Le marché des soins de santé devrait atteindre 133 milliards de dollars d'ici 2022. En Inde, système public et système privé coexistent. Le système de santé public est essentiellement concentré sur la fourniture d'installations primaires, dans des zones rurales. Le secteur privé lui fournit la majorité des établissements de soins secondaires et tertiaires, avec une concentration importante dans les métropoles et les grandes villes. Parmi les difficultés en Inde, il n'est pas facile de trouver un médecin, 8,6 médecins pour 10 000 habitants, de s'approvisionner en médicaments dans les zones rurales et les hôpitaux publics sont surchargés avec beaucoup d'attentes. Ceci dit, si tout n'est pas parfait, au cours des 60 dernières années, l'espérance de vie a presque doublé, passant de 36 à 68 ans et le taux de mortalité a chuté de 25 à 7%. L'Inde dispose par ailleurs de professionnels de santé bien formés et elle est très compétitive en termes de coûts par rapport à ses pairs en Asie et dans les pays occidentaux. Le coût des opérations chirurgicales en Inde est d'environ 10 fois moins élevé qu'aux États-Unis ou en Europe occidentale. Donc, si vous voulez vous faire un petit summer body de sortie de confinement sans trop d'efforts, c'est là-bas. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir cette brillante idée, puisque le marché indien du tourisme médical connaît une croissance de 18% par an et devrait atteindre 9 milliards de dollars en 2020. Comme tourisme médical, c'est un gros mot en France, pas de chiffre disponible. Mais au niveau mondial, en 2016, le marché total du tourisme santé était estimé à 60 milliards. Pour finir, le gouvernement indien vise à porter les dépenses de santé à 3% du produit intérieur brut d'ici 2022. Concernant l'assurance en matière de santé, seulement 2% des dépenses totales de santé en Inde sont actuellement couvertes par les assureurs. Seuls 18% des habitants des zones urbaines et 14% des habitants des zones rurales sont couverts par un régime d'assurance maladie, quel qu'il soit. Pour en revenir aux hôpitaux, le privé détient plus de 90% des hôpitaux et il emploie 85% des médecins, avec pour conséquence une hausse des prix. Les dépenses de santé représentent une part importante du budget des Indiens, et c'est d'ailleurs l'une des principales causes d'endettement des ménages. Voilà. Avec cette déferlante de chiffres dont vous n'aurez probablement pas retenu le dixième, vous avez quand même une bien meilleure vision de ce qu'est vraiment ce marché assez excitant pour un assureur qui dispose d'un gros variable. Et on peut donc se concentrer sur cette licorne dont vous n'avez jamais entendu parler, Policy Bazaar. Et ça, c'est dans une minute. Et oui, c'est la page de promotion où je vous indique gaiement que vous devriez vraiment, vraiment vous inscrire à la newsletter du site qui fait trembler la presse mondiale, j'ai nommé asieinnovation.fr. Asieinnovation, tout attaché, un S à innovation.fr. Et pourquoi tremble-t-elle la presse mondiale? Eh bien parce que sur ce site, vous avez accès, tenez-vous bien, à tous les épisodes, au sommaire, à des extraits écrits et en plus à du contenu exclusif. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre sur asieinnovation.fr. asieinnovation.fr, Asie Innovation tout attaché, hein, sainnovation.fr, de vous inscrire et pourquoi pas de me faire un petit message d'encouragement, de me demander une thématique, de me proposer votre vision. Que sais-je, discutons entre gens de bon goût. Et puis également, il vous faut vous abonner au podcast. Depuis le site, ça tombe bien, vous aurez accès à tous les liens qu'il vous faut pour ce faire. Voilà, fin de la promotion, retour à Policy Bazaar. Enfin, on quitte le monde des marchés, des études et du contexte pour rencontrer notre entreprise du jour, Policy Bazaar. D'abord, Policy est une très vieille entreprise puisqu'elle a été fondée en 2008 sur un positionnement d'agrégateur d'assurance. Concrètement donc, elle joue le rôle de point de contact unique entre des prospects qui gagnent du temps en obtenant plusieurs devis en une seule fois et des entreprises d'assurance, assureurs ou courtiers qui y voient une opportunité d'accéder à un plus large panel de clients potentiels. Si on en croit la communication institutionnelle de la société, et qui sommes-nous pour en douter ? Elle a été créée pour répondre à un marché indien de l'assurance qui s'apparentait clairement à un Far West. Je cite. En 2008, les clients des compagnies d'assurance en Inde étaient confrontés à une situation difficile. Il y avait un manque d'informations sur les produits, une absence de transparence, des ventes abusives et un taux élevé de résiliation des polices d'assurance. Du coup, l'ambition de Policy était de construire un espace basé sur la transparence, facilitant la recherche et les comparaisons pour obtenir des produits répondant au mieux aux attentes. Alors, dès le début, Policy a également souhaité ajouter une forme de sécurité avec une piste d'audit, puisque toutes les communications sont enregistrées. Par ailleurs, le service client de Policy Bazaar aide les utilisateurs à régler les demandes d'indemnisation et à modifier les polices. Ce positionnement de gestionnaire de bout en bout est lié au fait que les assureurs indiens ne disposaient pas de capacité à gérer le e-commerce. Alors, nos amis, ils sont pas vraiment regardants sur les produits et ils vendent absolument tous les types d'assurances. On parle d'auto, moto, habitation, santé, voyage, taxi, santé collective, mais aussi des assurances dédiées aux militaires ou du pay as you drive. Pour votre culture, sachez qu'il y a une société sœur qui s'appelle PESA Bazaar, qui facilite, elle, les prêts, les cartes de crédit et la vente de fonds communs de placement, en exploitant un marché indien qui, selon les prévisions du Crédit Suisse, sont pas très drôles au Crédit Suisse, devrait franchir le cap des 1000 milliards de dollars d'ici 2022. Mais nous n'en parlerons pas ici, car comme je l'ai déjà souvent dit, s'il y a plus ennuyeux que l'assurance, c'est bien le crédit. Alors il y a encore plus ennuyeux que les crédits, hein, c'est un énième post LinkedIn sur le manager leader bienveillant. Tout ceci permet à Policy Bazaar d'être le premier agrégateur d'assurance en Inde, avec un petit 90% du marché, mais aussi de se présenter comme un acteur majeur du secteur des technologies de l'information au niveau mondial. Je vous expliquerai pourquoi après, on va dire que c'est en devenir. Et évidemment, des chiffres fous. 10 millions de clients uniques, 100 millions de visiteurs par an sur la plateforme, c'est-à-dire 300 000 visiteurs par jour. 400 000 polices d'assurance vendues chaque mois. Alors pour vous donner un ordre d'idée, AXA en France, c'est 6 millions de clients. Pourtant, du point de vue d'Elon Musk, c'est une assez mauvaise fintech, puisque depuis leur création, ils ont toujours été rentables, avec une croissance annuelle systématiquement supérieure à 100%. Pour autant, si vous préférez afficher une citation inspirante du bon vieux Elon sur votre mur plutôt que des chiffres d'une insurtech indienne, je vous accorde que pour faire des likes, c'est mieux. Regardons désormais les grandes forces de Policy. Un investissement massif dans l'automatisation et l'efficacité des process. L'objectif de Policy, c'est de croître de 100% par an au cours des prochaines années. Mais pour autant, ils ne souhaitent pas recruter dans des proportions aussi importantes. Ce qui d'ailleurs me semble être une alerte assez forte pour les assureurs traditionnels qui eux ont déjà un historique de salariés. Pour ce faire, Policy Bazaar, ils ont tenté plein de trucs. Par exemple, ils ont lancé un chatbot qui s'appelle PB Connect pour leur assurance voiture. Plus de la moitié de ces assurances automobiles sont réalisées par le bot, qui, par ailleurs, accroît significativement la productivité. Un petit x4 de rien du tout. Le robot fait la totalité de la transaction dans 80% des cas, l'humain n'intervenant que lorsqu'une question complexe est posée. Par ailleurs, Policy souhaite investir fortement sur la data client. Ouh là là, mais quelle originalité ! Par exemple, la société, qui enregistre 35 millions de minutes de conversation par mois, souhaite les analyser afin de vendre des produits plus personnalisés ainsi que des assurances temporaires. Enfin, Policy est un client historique du cloud AWS depuis 2018, dans lequel la totalité de son infrastructure informatique est hébergée. Officiellement, cela leur permet une économie de 25%. Pour info, ils utilisent également Amazon Poly, qui est un service qui transforme le texte en discours humain, avec des accents locaux. C'est utilisé notamment pour faire des messages très personnalisés pour informer les clients des documents manquants ou faire des rappels pour les examens médicaux. Si vous voulez un petit pari qui n'engage à rien, Policy pourrait bien être l'un des premiers utilisateurs mondiaux d'influenceurs virtuels, voire utiliser les deepfakes, mais en version professionnelle. Cette obsession de l'efficacité sert les autres visions stratégiques du groupe, exprimées encore très récemment par Sarbvir Singh, le directeur général de l'agrégateur d'assurance. En l'espèce, on parle de segmentation en santé, jeunes, familles, entreprises, et d'une recherche maximale de simplification des produits. Pour poursuivre son extension, Policy Bazar, qui sans doute m'écoute, s'est dit « il y a un truc pas bête à faire, construisons un écosystème ». Alors je vous ai déjà évoqué la société sœur dédiée aux investissements, mais ce n'est pas la seule. D'abord, il y a un policybazar.ee qui se positionne sur le marché des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï, etc. Autre filiale super importante, DocPrime. DocPrime, c'est un super projet, fournisseur de services médicaux online qui veut donner un accès facile aux soins de santé. C'est tellement un super projet que je vous en parlerai dans un prochain épisode. Et puis enfin, Zin.com, qui est la filiale technologique qui permet donc à Policy Bazar de se présenter comme une tech compagnie, leader mondial, blablabla, tout ce que je vous ai raconté au-dessus. Et je vais donc vous en parler maintenant de Zin.com. Alors, nos amis de Zin, eh bien, ils ont packagé les outils utilisés par Policy Bazar. Par exemple, Zassist. Zassist, c'est une solution d'aide et de suivi des ventes. Il comporte des outils de gestion des opportunités commerciales qui s'attachent aussi bien au scoring de ces opportunités que à ce que l'on nomme poétiquement le lead nurturing. Le lead nurturing, c'est la mise en couveuse via une relation marketing des prospects pas encore mûrs. Mais cette plateforme intègre en plus de nombreux outils destinés au centre de relations clients pour optimiser la productivité, par exemple la numérotation automatique. Autre exemple de produit, Z-Direct, qui est un framework qui permet à tout à chacun de construire les parcours d'achat online de son portail. À ce stade, je vous donne tel quel l'argument commercial avancé par Zin.com parce que franchement, je trouve qu'il est extraordinaire. Pourquoi réinventer la roue alors que Z-Direct Portal dispose de tous les mécanismes nécessaires pour accélérer le processus de développement de votre portail? Profitez de notre expérience de plus de 10 ans dans l'accélération de la mise en œuvre de portails de vente et de services en ligne. Alors oui, pourquoi est-ce que vous voulez réinventer la roue, franchement? Bonne question, non? Il y a de nombreux autres produits et services ainsi qu'une logique de consulting. Pour autant, les ambitions sont pour l'instant modestes puisqu'on parle de 100 personnes à date et de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais l'entreprise souhaite adresser donc le marché indien, mais aussi australien, Moyen-Orient et Singapour. Voilà, c'est presque fini. Puisque dans 30 secondes, je vous donne une information en plus qui, je l'espère, égaillera votre journée. 30 secondes pour vous dire que je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous y avez pris du plaisir et que vous avez appris plein de choses. Je ne saurais trop vous encourager à écouter d'autres épisodes de ce podcast, n'hésitez donc pas à explorer asieinnovation.fr. Je ne saurais pas moi-même si je ne vous incitais pas à liker et commenter mes posts. Les commentaires, c'est la vie, surtout vis-à-vis de l'algo de LinkedIn. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter pour échanger, débattre, me dire que j'articule mal. Pourquoi ? Parce qu'un podcast, c'est là pour être construit avec son audience. Allez, l'info en plus. L'insurtech santé Plume vient de lever près d'1 million d'euros, notamment auprès de Xiaomi. Plume s'est positionné sur la santé collective privée et veut offrir, je cite, « une expérience de soins de santé de haute qualité aux employés et aux employeurs ». Elle propose donc des offres assez larges qui intègrent des consultations médicales, des bilans de santé, du fitness, du yoga, du bien-être mental ou de la nutrition. Le PDG de Plume déclare « Lorsque nous regardons d'autres pays comme les États-Unis, nous constatons qu'un pourcentage élevé de la population est couvert par une assurance maladie fournie par l'employeur. Nous pensons que l'Inde va elle aussi évoluer dans cette direction où une partie importante de la population dépendra de l'assurance maladie fournie par l'employeur. Chez Plume, nous construisons une véritable plateforme d'assurance en ligne qui couvre le front-end, la distribution, et le back-end, tarification, transporteur et conformité. Un nouveau concurrent à nos amis de Policy. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai été ravi. On se retrouve très bientôt.